Conte de Basse-Bretagne, Trémeur ou l'homme sans tête. Il y avait autrefois, du côté de Plouguer, là-bas, sur le bord de l'Aulne, au-dessus de Carhaix, un village hanté par des païens qui adoraient des dieux, des demi-dieux, des déesses, des diablesses et un tas de vilaines choses. J'ai entendu dire par des savants que leur chef s'appelait Druide. C'étaient des magiciens ou des sorciers qui, pour savoir l'avenir, coupaient du gui sur les chênes avec des faucilles d'or. Mais pour deviner l'avenir, ces affreux sorciers ne se contentaient pas de cueillir du gui. Ils faisaient mourir sur les tables de pierre que l'on voit encore sur nos landes des victimes humaines, des chrétiens surtout, qui étaient leurs plus grands ennemis. Dans ce temps-là, la croix de notre Seigneur n'avait pas encore 300 ans. Vous voyez que mon histoire est plus vieille que Mathusalem. N'importe, les vieilles choses valent bien les neuves, comme disait le vieux Bornic, sacristain et fossoyeur du monastère. Le druide, chef du village de Plouguer, s'appelait Comor. Il avait un fils, guerrier généreux, nommé Trémeur, qui ne voyait qu'avec pitié les cérémonies de ces maudits païens. Un soir, après une bataille, on amena des prisonniers au village. Ils furent enfermés dans des grottes de pierre, au fond desquelles on les enchaîna. Ce soir-là, l'orage grondait. Cependant, comme il avait vu enfermer un vieillard à longue barbe blanche, Trémeur s'en vint à la nuit rôder autour de la caverne et entendit une voix qui disait « Seigneur, prenez votre serviteur et que son sang serve du moins à la conversion des païens. » Ces paroles étonnèrent Trémeur et renversant la porte de pierre, il entra résolument dans le cachot. Alors il vit le vieillard à genoux. Ses mains chargées de chaînes étaient levées vers la voûte sombre et la lueur des éclairs passant entre les rochers illuminait par intervalles son front chauve et blanc. Je ne puis vous rapporter ce qu'ils se dirent. Ce qu'il y a de certain, c'est que Trémeur brisa avec sa hache les fers qui serraient les mains du captif et qu'ils sortirent ensemble de la caverne. La nuit et l'orage auraient pu cacher leur fuite. Par malheur, comme ils allaient quitter le village, voilà qu'un druide les aperçut et se mettant au milieu du chemin, vint leur barrer le passage. Trémeur reconnut en tremblant comme mort son terrible père, qui d'une voix courroucée lui demanda où il allait. Trémeur, ou qui ne connaissait ni la crainte ni le mensonge, répondit sans hésiter « Laissez-nous passer, mon père. Ma résolution est prise. Je veux sauver ce vieillard innocent et me faire chrétien. »« Toi, chrétien ?» s'écria Comor d'une voix formidable en brandissant sa hache. « Non, non, par la barbe du grand U. Chrétien, non, tu ne seras jamais. » Et en disant cela, il porta un coup si violent à son fils qu'il lui trancha la tête. Voilà l'homme sans tête. Mais comme Trémeur était d'une force prodigieuse, il revint sans broncher, il retint sa tête contre sa poitrine. Et au même instant, il eut un grand coup de tonnerre, un zigzag de feu passa entre nos trois hommes. Et si le tonnerre dit souvent du mal, fait souvent du mal, cette fois il fit un bon coup, car Comor avait reçu la bordée et ne remet plus ni pied ni patte. Voilà qui va bien. Nos deux jeunes gens ne restèrent pas le regarder longtemps et prirent le large. Le prisonnier, remarquant Trémeur qui suivait aussi bien que possible, en portant sa tête sur son estomac, « Oh, ça devait être assez drôle tout de même de voir marcher un homme sans tête. » Il faut vous dire que le vieillard n'était autre que saint Orsobo, l'ermite. Vous connaissez sans doute de réputation saint Herbo, l'ami des laitières, un saint plus doux que le beurre frais. Enfin, quand il fut rendu un peu loin, l'ermite, voyant que son compagnon suait à grosses gouttes, à porter ainsi sa tête sur son cœur, lui offrit d'abord de la porter à son tour, pour se reposer. Mais aussitôt il réfléchit que, s'il lui tirait tout à fait sa tête, il était probable que le pauvre diable ne s'en retrouverait pas mieux. Et pourtant, on dit qu'il y a bien des gens qui seraient bien meilleurs sans leur mauvaise tête. Enfin, n'importe, il vint tout à coup une fameuse idée à Saint-Herbo. Oh, vous allez voir. On passait alors devant une ferme et la ménagère battait du lait sur le seuil de son maison. « Oh, vous faites là du beau beurre !» dit l'ermite. « Oh, ma foi, non ! Mille malheurs !» répondit la femme en jurant un peu. « Ce fichu lait ne lève pas du tout, à cause de l'orage, apparemment. »« Bah !» fit le saint en riant. « Si vous vous y prenez pas bien, bonne femme !»« Oh !» répliqua celle-ci. Je ne m'y prends pas bien. Ah, voilà qui est fort. Moi, la meilleure du pays pour le beurre. Mais vous radotez, vieux bonhomme. Et par les cordes de ma vache, dit Saint-Bervaux. Tenez, bonne femme, je parie qu'en trois coups, je fais lever toute votre baratée. Et si vous voulez m'en donner un petit morceau après. Oh, un morceau, je vous donnerai, dit-elle. Mais quand à faire lever mon beurre en trois coups, vous plaisantez. Possible, mais laissez-moi faire. Et se disant cela, l'ermite prit le manche du ribot, frappa trois bons coups, ni plus ni moins, et dit à la fermière, regardez-y vous-même. Et en vérité, le beurre était fait. Et du beau encore. Oh, c'était merveilleux. Et la fermière ne savait trop qu'en penser. Elle pensait, je crois, qu'il y avait du sorcier là-dessous. Surtout quand elle vit l'ermite prendre du beurre dans ses mains, puis après avoir bien beurré le cou de Trémeur avec son couteau, lui replacer la tête entre les deux épaules et lui dire « Maintenant, mon ami, te voilà rassuré et te voilà restauré. Ta tête est assez solide, allez, tu peux courir le monde. Seulement, gare au feu et à la chandelle. Prends garde aux coups de soleil, car du beurre, vois-tu, ça fond à la chaleur. » Et au lieu de ta pauvre tête, mon garçon, adieu, te voilà prévenu, mais avant que je ne te quitte, mets-toi à genoux afin que je te baptise au nom de la Trinité. » Trémeur se mit donc à genoux, et Saint-Herbo lui versa de l'eau sur le crâne en disant « Ego te absolbatizo ». Ce qui veut dire, si vous savez bien le latin, « Je te baptise avec de l'eau ». Voilà, qui va bien, très bien. Si bien que Saint-Herbo vira de son côté et laissa Trémeur bien recollé, bien redressé et non moins étonné. Quant au reste du beurre, la fermière, le regardant comme ensorcelé, l'offrit la bonne femme à Trémeur, qui l'accepta et le mit dans sa poche pour son souper. vu que l'appétit commençait à lui revenir. Désormais, notre homme pouvait voyager sans trop de crainte par le temps couvert. Et en prenant quelques précautions, sa tête, à la rigueur, va être autant que celle de bien des gens. Il est vrai que ses yeux étaient un peu fixes et hagards, et qu'il ne pouvait plus tourner le cou, mais quand on a été sur le point de perdre à jamais la boule, on ne doit pas y regarder d'aussi. Tremer eut, dit-on, de belles aventures. Comme il aimait la guerre, il tua plusieurs géants, ogres et bêtes féroces qui désolaient le pays. Il est bon de vous dire qu'il avait juré de ne pas se marier. Et en cela, il n'avait peut-être pas tort, vu que si une beauté lui tournait la tête, adieu la colle et le reste, vous comprenez. Pourtant le diable, celui qu'on nomme chez nous le vieux Guillaume, en non pas le lugubre Satan, mais un diable comique, tendre et bon enfant. Donc ce farceur de diable-là avait aussi juré de jouer un tour à Tremer, parce que Tremer, en se convertissant, lui en avait joué un autre. Satan voulait le rendre amoureux, naturellement, pour lui faire perdre la tête une seconde fois. Voilà donc qu'un jour, notre homme, en passant dans une forêt, rencontra un vieillard, dont il tout à fait vénérable, et qui pleurait comme une madeleine, sauf qu'il avait une vilaine barbe rouge. « Qu'avez-vous donc, vieux père ?» lui disait-il, avec compassion. « Pourquoi pleurez-vous ?»« Oh, j'ai bien sujet de pleurer, » répondit l'autre en grinçant. « Voyez-vous, là-bas, les hautes murailles d'un manoir maudit ?» Eh bien, ma fille unique est là, prisonnière d'un méchant ogre qui doit la manger ou l'épouser demain, ce qui est à peu près la même chose. Ah, fit Tremer, je ne dis pas non, mais je n'aime pas me mêler des aventures où il y a des femmes. Ça vaut jamais rien. Oh, oh, s'écria le tentateur, vous êtes un drôle de corps, mais ma fille n'en sera pas moins mangé, puisque vous qui avez l'air si vaillant, vous n'avez pas le cœur de... Halte-là, mon vieux. On n'a jamais dit que Tremer fut un lâche. Pour la tête, pas encore, mais le cœur, il est fort. Ainsi donc, vu que le temps est couvert, je m'en vais la chercher, votre fille. En attendant, vous, priez pour moi. L'homme rouge fit entendre une sorte de rugissement à ces mots. Mais Tremer était déjà en route, et comme il ne pouvait détourner la tête, il ne vit pas le vieux coquin faire une gambade sur ses pieds fourchus et une grimace de possédé. « Voilà qui va bien, » comme disait le sacristain. « Je ne perdrai pas de temps à vous raconter comment le fils de Comore fendit l'ogre en deux d'un seul coup de hache et sauva la fille du diable. Non, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en vérité, car on dit que la fille du diable court encore par le monde et que ses petites filles, les mauvaises pensées, volent et s'étendent comme d'horribles vapeurs sur la triste humanité. Toujours est-il qu'une heure après, il revint dans la forêt, vers l'endroit où il avait laissé l'homme rouge. La jeune demoiselle, étant trop faible pour marcher, se faisait porter par Tremer. Que cela n'arrangeait pas trop, vu qu'elle se cramponnait à son pauvre cou et qu'elle était diablement jolie. Tremer avait beau chercher, impossible de retrouver le vieux père. Il suait à grosses gouttes. Le soleil passait par endroits à travers le feuillage. Il s'aperçut bientôt, avec effroi, que le beurre commençait à couler sur sa poitrine, et déposa malgré elle la jeune fille sur la terre. « Vous n'allez pas m'abandonner, au moins ?» dit-elle en pleurnichant. « Comment faire ?» répondit Tricœur, aussi inquiet. « Je vous ai sauvé, ma belle dame, pour vous rendre à votre père, mais où est-il ? Dites-le, je vous conduirai n'importe où. » « Si le temps est couvert. »« C'est inutile, » reprit la commère. « Mon père ne me recevra pas chez lui, parce qu'un chrétien m'a porté dans ses bras. Je suis perdue, ah, ah !» Et puis des larmes, en veux-tu, en voilà. Le bon Trémeur, dans cette terrible passe, éprouvait, comme on dit, une fière suée, si bien que le beurre fondait toujours de plus en plus. Voilà qui va mal. Encore quelques minutes, et sa tête, qui branlait déjà, allait glisser de dessus ses épaules. Par bonheur, il se rappela que Saint Herbeau lui avait dit de faire le signe de la croix quand il se verrait en mauvaise veine. Ayant donc fait son signe de la croix fort à propos, il ressentit subitement une sorte de frisson. La colle cessa de fondre, et à la place de la jeune fille, où la jeune fille avait été assise, il ne vit plus rien, rien du tout, que le gazon fumant et roussi. Il comprit que le diable était là-dessous et jura de plus belle que dorénavant on ne lui prendrait plus à se mêler d'aventures concernant une femme, fille ou veuve. Après une telle affaire, et vous conviendrez qu'elle avait été chaude pour lui, Trémeur devait avoir une furieuse soif. Voyant le temps couvert et orageux, il se hasarda à sortir de la forêt. Une grosse pluie ne tarda pas à tomber. Notre camarade, qui avait oublié son parasol, fut bientôt trempé jusqu'aux os. Pourtant, il continua sa route et aperçut enfin une maison, une chapelle de l'enseigne de Guy. Comme c'était déjà la mode dans ce temps-là, la vue de cette enseigne de malheur augmenta encore sa soif, si bien que le voyageur s'approcha sans défiance de la porte de ce cabaret. Alors il remarqua qu'une femme se tenait assise au comptoir sur lequel on voyait alignés des verres, des chopines, des pichets de vin et de cidre. Et tout cela était bien tentant pour un homme aussi altéré. Mais à la vue d'une femme, il recula en soupirant et raffermissant sa pauvre tête qu'il avait tremblé, il se disposait à se remettre en route quand on le toucha à l'épaule. « Eh bien, l'ami, lui dit un homme un peu rouge, mais aimable, on passe devant la boutique à Bacchus sans dire bonjour. La vieille Proserpina, mon épouse que vous voyez là, verse pourtant bonne mesure aux pratiques. » Quoique les 100 ans sonnaient, en entendant parler de 100 ans, l'auteur, Trémeur, se sentit rassuré. Le malheureux, il ignorait qu'il y a des vieilles plus rouées que des jeunes. Alors il revint donc et entra dans le cabaret. Il aurait dû se méfier autant du cabaret que des femmes jeunes ou vieilles. Mais la soif, la terrible soif, la pluie qui tombait, la vue des pichets de cidre, rien que la main à tendre et 2 sous à donner. Ah ! Un breton, un vrai breton, il saurait tenir. Voilà qui va mal, très mal. Trémeur rendra donc. Et la langue épaisse, comme de raison, il demanda à boire un bon coup de saisir mal. La vieille lui en versa plein bord dans un énorme pichet. Notre voyageur était tout trempé. L'homme rouge ranima naturellement le feu et fit asseoir Trameur le plus près possible du foyer. Trameur tenait le pichet avec son menton. Il se mit à boire avec délice, sans voir la sorcière qui riait, le feu qui flambait par derrière et le beurre qui fondait rapidement sur son pauvre cou. Et soudain, le diable s'en mêla pour sûr, car la tête décollée roula dans le grand pichet que le buveur tenait à deux mains. Or, le sacristain, qui était un fameux farceur, quoique fossoyeur de son état, disait que Trameur continua à boire son cidre avec autant d'ardeur qu'il avala. En la vérité, ceci est trop dur à aller tout de même. Mais que voulez-vous ? Alors il disait donc que Trameur avait avalé sa tête, sa propre tête, et qu'il s'en aperçut qu'au moment de payer la dépense et de dire « Kenav ou bonsoir » à la compagnie. Non, rassurez-vous, ne suivrons pas ce farceur de sacristain dans cette affreuse plaisanterie et je vais vous dire la vraie vérité. Pour lors, le chef décollé ayant roulé dans le fond du pichet, l'homme rouge, qui se tordait de rire, attacha le pichet avec une ficelle sur le dos de Trameur et lui dit qu'on n'avait plus besoin dans un cabaret d'un imbécile sans tête et par conséquent sans bouche pour consommer le bon cidre. C'était assez naturel et le pauvre Trameur le comprit. Il se mit donc en route avec son pichet et sa tête sur son dos et résolut d'aller retrouver Saint Berthaud, son parrain dans l'ermitage où il demeurait près de la cascade qui porte son nom. « Toc, toc, qui va là ?» Pas de réponse. Saint Herbeau, ayant regardé par la lucarne, s'écria « Oh, voilà un drôle de vagabond, sans figure. Ah, je parie que c'est mon filleul. Ah ben, tu t'es mis au soleil ou trop près du feu, mon garçon. Le beurre a fondu et ma tête a été, elle a filé, et je viens vous la redemander, mon parrain. » Trameur ne répondit pas ainsi, comme de raison, mais il essaya de le faire comprendre à la manière des muets, en remuant ses épaules et son pichet. « Oh, ceci n'est pas trop clair, » dit l'ermite. « Faudrait d'abord me dire où elle est. » Ta diable de tête. Alors, en secouant plus fort le grand pichet, où le cidre glapotait, joliment, Trameur réussit à saisir la ficelle et fit signe à l'ermite de regarder dedans. Par les cordes de ma vache, s'écria le patron du bon beurre en examinant le pichet fatal. Voilà sa tête. Sa tête noyée dans du cidre. Oh, mais c'est un gros péché d'ivrognerie. Et cette fois, mon pauvre garçon, il n'y a que notre Saint-Père le Pape qui peut t'absoudre et te restaurer. Si c'est un reflet de la volonté de Dieu. Allez, en attendant, mon fils, entre ici et causons un peu. Prêt. Mais vous plaisantez, mon parrain. Comment voulez-vous que je cause ? Avait l'air de dire Trameur au moyen de contorsions pitoyables. Ah, c'est juste, dit Saint-Herbert en riant. Alors, repose-toi, mon garçon. Tu partiras ensuite. À défaut de tête, je vois que tu as du cœur. Je vais tout autant, ça vaut tout autant et même davantage. Trameur vint donc s'asseoir dans la grotte. Puis après s'être reposé, il se leva, fit ses adieux comme il put à son vieux patron et partit par la route de Huelgaard. pour aller à Rome demander au pape le pardon de ses péchés et sa tête, s'il était possible, de la rafistoler. Et vous pensez bien que l'on ne peut pas aller à Rome sans boire ni manger, comme un aveugle qui va de Gourin à Carnex. Aller à Rome, Seigneur Dieu, épouvanter le pape et les cardinaux en leur montrant un tel fantôme, ambulant, avec sa tête dans un pichet sur son dos. Oh non, non, cela n'était pas possible. Dieu, qui lui laissait la vie, ne pouvait le permettre. En sorte que le malheureux marcheur, infatigable, resta dans le pays breton, où il ne cessait d'aller au hasard, allant et venant, pour se rendre à Rome, où tendait tous ses voeux. Spectre horrible, il marchait ainsi nuit et jour, comme l'ombre du trépas, priant d'intention, priant sans cesse, et demandant à Dieu d'abréger son épreuve. Il marchait depuis si longtemps qu'il devait se croire bien près de son but. Ses forces commençaient à s'épuiser. Enfin, un soir, après avoir monté la grande côte de Carhaix, l'homme sans tête, accablé de fatigue, voulut s'appuyer contre le mur du cimetière. Mais il manqua son coup. Le maudit pichet donna contre la pierre et fut mis en pièces, si bien que la malheureuse caboche roula dans la poussière du chemin où le décapité essaya durant la moitié de la nuit de se retrouver à tâtons. Par malheur, sa tête avait roulé trop loin sur la pente. Il fut impossible de la rattraper et il tomba mourant dans la douve du chemin. En vérité, on en mourrait à moins, comme disait le fossoyeur en riant. Eh bien, voilà l'histoire de l'homme sans tête. Elle m'a été racontée par mon grand-père, qui tenait le vieux bornique sacristain du monastère. Finalement, je vous engage à aller vous promener du côté de Carhaix, si vous ne connaissez pas ce beau pays. Vous y verrez le saint sans tête. Il est toujours à la place où il était jadis, où il tomba, couché, contre le talon tenu du cimetière de Saint-Honoré-Meur. Seulement, il est changé en pierre, naturellement, pour durer davantage sous le soleil et la pluie, et pour rappeler au monde cette histoire surprenante et surtout véritable. Pour moi, je dis en finissant, que si Trémeur avait perdu sa tête, il avait gardé un cœur fort. Ce qui prouve peut-être que le cœur vaut mieux que la tête.